Puis, alors, donc, dans le plan, nous sommes toujours dans le chapitre 1er, section 3, paragraphe 1, grand A, donc les doctrines hétérodoxes, et petit c, des églises parallèles. Parce que parfois, donc, ces hérésies gnostiques ont abouti à la constitution d'églises parallèles. Alors, en particulier, le marcionisme. Alors, on va voir Marcion.
Marcion,
qui est plus ou moins mort en 160, on ne sait pas trop. Alors, c'était le fils de l'évêque de Sinope, en Asie mineure. Il est excommunié par son père. Ça commence très mal. Il sera même très... Et alors, donc, il s'en va de Sinope. Il arrive à Smyrne. Et là, à Smyrne, il est traité de premier-né de Satan par Polycarpe. Donc, vous voyez, il était quand même mal parti, ce pauvre Marcion. Alors, évidemment, sa doctrine est connue par ses adversaires qui la citent dans leurs œuvres, donc par des fragments, comme un peu. En général, les hérésiarques, leurs œuvres étaient détruites, mais pour pas justement que ça se diffuse. Et il y avait une sorte de prophylaxie, voilà. Il y avait des fragments qui subsistent dans ceux qui les contredisent, donc chez leurs contradicteurs. Donc essentiellement Saint-Irénée, Tertullien, Saint-Hippolyte de Rome et Clément d'Alexandrie. Donc si vous regardez, Irénée c'est en Asie mineure puis en Gaule, oui. Tertullien c'est l'Afrique du Nord, Hippolyte c'est l'Italie et Clément c'est l'Égypte. Donc autrement dit, la pensée de Marcion s'était répandue partout. On sait qu'il est arrivé en 138 à Rome, où il sera excommunié à nouveau par l'évêque de Rome quelques années plus tard. Alors, il semblait, enfin plus qu'il semble, il est influencé par un autre hérésiarque, Cerdon, 85-160. Comment ? Qui opposait le Dieu juste de l'Ancien Testament au Dieu bon du Nouveau Testament. Vous savez toujours cette histoire entre justice et charité. Hein. Vous voyez que ça ne date pas d'hier. Et qui fut condamné par le pape Hygin, celui qu'on a fêté il y a une semaine, là, comme commémoration d'une féerie. Hygin, Hygin, qui est mort en 140. Alors, d'après Saint-Irénée, il publie des antithèses qui véhiculent un paulinisme outré. C'est-à-dire, vous voyez, l'hérésie, c'est toujours la même chose. On choisit quelque chose qui nous plaît bien en vertu d'une idée préconçue qu'on a. Et puis on élimine le reste. Alors, ce que lui va choisir de Saint Paul, c'est tout ce qui va contre la loi, l'Ancien Testament et le judaïsme, en un mot. Il ne gardait des Écritures que l'Évangile de Saint Luc et les lettres de Saint Paul, sauf Hébreux, évidemment, qui parlait un petit peu trop du culte ancien. Et il va dégager, et c'est pour ça qu'il fera le... Alors ça, je parle de Marcion maintenant. Et il va dégager le gnosticisme de tout son habillage fantasmagorique qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière. Donc de toute cette espèce de revêtement apocalyptique. Et grâce à un fort héritage, il va organiser sa secte en véritable église. Donc il va avoir les sous pour fabriquer une véritable église, des copistes qui vont copier ses écrits, les répandre, enfin, etc. Il sera combattu par Tertullien dans l'Adversus Marcionem, avant que Tertullien lui-même devienne montaniste. Et il inspirera toutes les doctrines récente en particulier, qui cherche à découpler les deux testaments. Exemple, le national-socialisme, qui va dire que en fait, le judaïsme doit être abandonné. Enfin, disons, l'Ancien Testament n'a pas de valeur pour le christianisme, que le Christ, d'ailleurs, n'était pas vraiment juif, enfin, etc. Donc, toutes ces doctrines qui minimisent le rôle de l'Ancien Testament, et aussi, par exemple, toutes les doctrines modernes, de la théologie moderne, qui parlent de l'inculturation, où on va dire, l'Ancien Testament, c'était bon pour les juifs qui deviennent chrétiens, c'est un peu bon aussi pour les petits occidentaux ou moyen-orientaux qui ont pris ça comme tremplin, en quelque sorte. Mais pour les Africains qui sont chrétiens que depuis le siècle dernier, ou les Chinois qui deviennent ce siècle-ci, en fait, leur vrai Ancien Testament, c'est leur religion païenne ancestrale. Et vous voyez, donc, il y a des Anciens Testaments détachables. Hein, alors, pour ces crétins d'Européens qui n'ont pas été capables de s'appuyer sur leur vieille religion ancestrale, et on a récupéré le judaïsme. Hein, et puis, mais pour les autres, il ne faut pas recommencer la même erreur. Et donc, les nationaux-socialistes sont les précurseurs de la théologie de l'inculturation, vous voyez, toutes ces théologies progressistes des années 70. Remarquez, c'est aussi les précurseurs de l'eugénisme, les précurseurs de l'écologie, des autres verts aussi, parce qu'ils avaient des liens avec l'islam, etc. Donc finalement, à part le bel uniforme noir, il n'y a pas grand-chose à sauver.
La théologie moderne, c'est pas ceux qui sont nationaux-socialistes.
Non, mais
c'est autre chose.
Oui, c'est une théologie qui est née finalement de l'idée qu'il fallait pas imposer. Il fallait pas imposer l'hellénisme non plus. Donc il fallait que les gens fabriquent leur propre théologie à partir de leurs racines.
Quelle année, vous pouvez préciser la culturation exactement.
Oh, les années 60, 70. Et ça s'est surtout développé les années 70-80.
Est-elle un lien avec la théologie de la libération?
Oui, aussi. Oui. Mais un lien un peu ténu quand même, parce que la théologie de la libération, c'est juste social. Il faut se libérer socialement de l'oppression. Tandis que dans la théologie... de l'inculturation, il faut se libérer plutôt de l'oppression culturelle ou culturelle.
Ça, excusez-moi, mais ça rebondit aujourd'hui à la vitesse 3V. Ah, oui. Parce que l'oppression culturelle, c'est tout ce qui... Enfin, aujourd'hui,
on est tout à fait dans ça. C'est pour ça qu'après, il y a eu la théologie féministe, il y a eu la théologie des couleurs, la théologie de tout. Hein.
Et quels sont les grands noms de la théologie de l'inculturation?
Alors...
Il
faudrait que je retrouve ça. Je vous en avais parlé dans le cours de l'année dernière, à la fin, mais j'ai un peu oublié les noms.
Ça
sera pour une autre fois, oui. Mais de fait, c'est souvent des... Alors, il y a des Africains, il y a quelques Asiatiques, mais surtout, c'était des Européens, en fait, surtout de l'université de Louvain.
Tous les Rhénans, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, c'est... Oui, Hollandais, Belges et Allemands de l'Ouest.
Rhénanie.
Rhineland.
Vous savez, c'est le Rhin, le fameux bouquin, le Rhin se jette dans le Tibre. Le Rhin se jette dans le Tibre.
Oui.
De l'influence de la théologie progressiste germanique, entre guillemets, sur la théologie romaine et sur le concile.
Oui. Un prêtre qui était en place à Rome, un prêtre américain qui était en place à Rome.
Oui, allemand, je crois.
Il avait une sorte de bureau de presse.
Voilà. Je crois qu'il est allemand, en fait.
Allemand.
Oui, mais parce que le bouquin...
Aussi.
Oui, Kung aussi, hein, oui. Hans Kung, oui.
Oui.
Oui. Oui, c'est ça. Alors, donc je vais vous lire un passage justement d'une réfutation de la théorie de Marcion, justement qu'on trouve dans l'Adversus Ceresès, le gros ouvrage de Saint-Irénée. Ah bah tiens, comme ça, il va avoir son... au livre 1er, chapitre 27. Alors, un certain Cerdon prit lui aussi comme point de départ la doctrine des gens de l'entourage de Simon. Alors Simon, c'est un, donc vous voyez, encore un gnostique. Il résida à Rome sous Hygin, donc Hygin, première moitié du IIe siècle, le IXe à détenir la fonction de l'épiscopat par succession à partir des apôtres. Et c'est par Irénée hein, qu'on connaît les noms des 12, pas César, mais des 12 premiers papes. Et enseigna que le Dieu annoncé par la loi et les prophètes n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car le premier a été connu et le second est inconnaissable, l'un est juste et l'autre est bon. Vous voyez, juste et bon. Il eut pour successeur Marcion, originaire du Pont, qui développa son école en blasphémant avec impudence le Dieu annoncé par la loi et les prophètes. D'après lui, ce Dieu est un être malfaisant, aimant les guerres, inconstant dans ses résolutions et se contredisant lui-même. Ça, c'est une lecture un peu... Vous voyez, c'est une lecture littérale de l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'incapacité de le lire à la lumière du Christ. Hein. Ça produit ça. Quant à Jésus, envoyé par le Père, qui est au-dessus du Dieu auteur du monde, voyez, il est venu en Judée au temps du gouverneur Ponce Pilate, procurateur de Tibère César. Il s'est manifesté sous la forme d'un homme aux habitants de la Judée, abolissant les prophètes, la loi et toutes les œuvres du Dieu qui a fait le monde et que Marcion appelle aussi le Cosmocrator, donc celui qui tient le monde. Hein. En plus de cela, Marcion mutile l'évangile selon Luc, éliminant de celui-ci tout ce qui est relatif à la naissance du Seigneur, retranchant aussi nombre de passages des enseignements du Seigneur, ceux précisément où celui-ci confesse de la façon la plus claire que le Créateur de ce monde est son Père. Par là, Marcion a fait croire à ses disciples qu'il est plus véridique que les apôtres qui ont transmis l'Évangile, alors qu'il met entre leurs mains non pas l'Évangile, mais une simple parcelle de cet Évangile. Il mutile de même les épîtres de l'apôtre Paul, supprimant tous les textes où l'apôtre affirme de façon manifeste que le Dieu qui a fait le monde est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous les passages où l'apôtre fait mention de prophéties annonçant par avance la venue du Seigneur. Selon Marcion, il n'y aura de salut que pour les âmes seulement, pour celles du moins qui auront appris son enseignement. Quant au corps, du fait qu'il a été tiré de la terre, il ne peut avoir part au salut. À son blasphème contre Dieu, il ajoute encore, en vrai porte-parole du diable et en contradicteur achevé de la vérité, l'assertion que voici. Cain et ses pareils, les gens de Sodome, les Égyptiens et ceux qui leur ressemblent, les peuples païens qui se sont vautrés dans toute espèce de mal, tous ceux-là ont été sauvés par le Seigneur lors de sa descente aux enfers, car ils sont accourus vers lui et il les a pris dans son royaume. Au contraire, Abel, Enoch, Noé et les autres justes, Abraham et les patriarches issus de lui, ainsi que tous les prophètes et tous ceux qui ont plu à Dieu, tous ceux-là n'ont pas point eu part au salut. Voilà ce qu'a proclamé le serpent qui résidait en Marcion. En effet, dit Marcion, ces justes savaient que leur Dieu était sans cesse en train de les tenter. Croyant qu'il les tentait alors encore, ils ne sont pas courus à Jésus et n'ont pas cru à son message. Aussi, leurs âmes sont-elles demeurées aux enfers. Voilà. Puisque ce Marcion est le seul qui a eu l'audace de mutiler ouvertement les Écritures et qu'il s'est attaqué à Dieu plus impudemment que tous les autres, nous le contredirons séparément. Nous le convaincrons d'erreur à partir de ses écrits, et Dieu aidant, nous le réfuterons à partir des paroles du Seigneur et de l'apôtre qu'il a conservé et qu'il utilise. Pour l'instant, il nous faut faire mention de lui pour que tu saches que tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, adultèrent la vérité et blessent la prédication de l'Église sont les disciples et les successeurs de Simon, le magicien de Samarie. Bien que, dans le but de tromper autrui, ils se gardent d'avouer le nom de leur maître, c'est pourtant sa doctrine qu'ils enseignent. Ils mettent en avant le nom du Christ Jésus comme un appât, mais c'est l'impiété de Simon qu'ils propagent sous des formes diverses, causant ainsi la perte d'un grand nombre. Par ce nom excellent, ils répandent leur détestable doctrine, Sous la douceur et la beauté de ce nom, il présente le venin amer et pernicieux du serpent qui fut l'initiateur de l'apostasie. Voilà. On n'est pas tout à fait dans le dialogue interreligieux serein et apaisé. Mais vous voyez comment... il démontre bien la logique de l'hérésie, hein, c'est-à-dire on va choisir, ensuite on va mutiler les textes. Oui. Comme à l'époque, les gens n'ont pas une Bible facilement sous la main, ils sont abusés par l'hérésiarque qui leur propose des doctrines de ce genre. Donc, et puis vous voyez aussi la méthode de Irénée. D'abord, exposer sa doctrine, montrer qu'elle est non conforme à la règle de foi. Ensuite, essayer de montrer ses contradictions, etc. Et après, la réfuter avec l'Écriture sainte. Alors, voilà pour le martionnisme.
Est-ce qu'on peut dire que là, c'est peut-être la même question que là, mais... On peut dire que le national-socialisme s'est un peu inspiré du martionnisme.
Ben oui, c'est ce
que oui, je crois assez.
Dans
oui.
Le mépris du judaïsme.
Oui, tout à fait. Oui. Avec l'idée que le judaïsme dévirilise l'homme occidental, ça c'est les reprises c'est Nietzsche. De Nietzsche, oui. Etc. Donc, c'est tout à fait ça.
Non, mais non seulement ça, mais quand Jésus descendu aux enfers, les Juifs se sont précipités, qui n'ont pas été sauvés. Enfin,
ah oui, c'est ça.
Tout l'Ancien Testament, en quelque sorte.
Oui, alors en croyant qu'ils étaient trompés par le Dieu qui les a toujours trompés. Ouais, alors, donc, du coup, là, pour une fois que le Dieu ne les trompait pas, ils se sont fait avoir. Et c'est ça.
C'est
alors, du coup.
Une idolâtrie, quand même, une idolâtrie du Christ, enfin pas du tout Christ ni du Père, du Saint-Esprit, mais du Christ du par Marcion, c'est très idolâtre, très narcissique.
Je pense que chez Marcion, il y a l'idée que, en fait, le Christ est vraiment une nouveauté, oui, un être nouveau qui est le prophète d'un Dieu inconnaissable. Et ça, c'est quand même pas très très loin de l'islam. Hein. Quand vous voyez toutes ces doctrines qui se répandent, qui sont déformées, ça sert de fond de soupe là, de fond de sauce à ce qui, vous voyez, ça va inspirer des doctrines encore plus hérétiques. Ah bah pas mal là, parce que vous voyez, si je vous dis l'Afrique du Nord, l'Italie, la Gaule et l'Égypte réagissent, c'est qu'il avait des disciples partout. Et visiblement, il était assez riche pour se fabriquer des églises, donc se constituer des communautés qu'il entretenait.
Lui, il était très d'origine, il parlait quelle langue ?
Oh bah, grec, comme tout le monde.
Grec, et il était de quel...
Du pont. Le pont, oui, c'est le pont, c'est la.
Le pont sud.
Oui, voilà.
Le nord de la Turquie.
Ou le nord-ouest de la Turquie. Oui. Oui, exactement.
C'est l'analyse d'Alain Besançon. Il dit que l'islam, c'est une espèce de synthèse de toutes les hérésies chrétiennes qui traînaient dans le coin.
Exactement. Des hérésies chrétiennes et notamment des judéo-chrétiens. Alors, curieusement, des judéo-chrétiens, d'où l'importance de la lettre de l'Ancien Testament dans le Coran, et en même temps, l'idée que les juifs sont des falsificateurs, etc., qu'ils ont falsifié leurs écritures, etc. Donc ça aussi, c'est des mélanges d'hérésies, en fait. Alors, autre hérésie assez connue, c'est le montanisme. Alors, elle est notamment connue à cause de sa malheureuse proie, qui est Tertullien. Alors, c'est plutôt la deuxième moitié du deuxième siècle. Alors, pour ça, il faut se ressouvenir de l'Asie mineure, et en particulier de l'évangélisation johannique, qui était marquée par pas mal de prophéties. L'idée de prophétie active, on pourrait dire de charismatisme. Alors, ce don de prophétie qui est reconnu par l'Église primitive, confère Saint Paul, cet effet plus rare avec le temps, même assez vite. Et le Phrygien Montanus, connu par Saint Épiphane de Salamine et Eusèbe de Césarée, prétendit en être le dépositaire de cet esprit de prophéties qui s'étaient beaucoup développées dans les milieux évangélisés par saint Jean en Asie mineure. Et avec deux femmes qui d'ailleurs quittèrent leur mari pour le suivre lui. Ça commence mal.
Déjà.
Deux. Alors, c'est une explosion de prophétisme. Montant prétend être, je cite, la lyre vibrante sous l'archet de Dieu. Bon sang, hein ? Il se prétend l'interprète du paraclet qui commence son air avec lui. La Jérusalem nouvelle va inaugurer son règne de 1000 ans avec lui.
Et ça ressemble à notre millénarisme.
Ah bah oui, c'est... Alors, parce que le millénarisme était très prégnant dans cette zone, dans cette région. Irénée lui-même en était marqué. Hein. Donc, il faut se préparer à ce règne de 1000 ans en vivant dans la continence. Donc, c'est une théorie encratiste hein, de contre le mariage et contre la procréation. Et ce mouvement, celui de Montan, va, donc vous voyez qu'il va prospérer sur des racines qui étaient déjà présentes, va va s'étendre à toute l'Asie. Ah, tu as changé ton truc.
C'est quoi ? Pardon.